Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, Marion Cotillard et Brad Pitt nous parleront de leur couple au cinéma. Ils seront mercredi à l'affiche du film Alliés. Un bon mélo sur fond d'espionnage, nous dira Stéphane Boutsock. Une nouvelle confrontation dans nos matchs de comédie musicale. Steven Bellery est allé voir pour nous deux spectacles actuellement à l'affiche à Paris et bientôt en tournée, Le Rouge et le Noir et Un été 44. Nous retrouverons bien entendu nos express avec Charlotte Arrigoni. Et puis le pianiste français Alexandre Tarot consacre tout un album au compositeur russe Rachmaninov. Nous découvrirons de larges extraits avec Charlotte Latour.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Alors exceptionnellement, c'est aujourd'hui que nous allons passer en revue les sorties cinéma de la semaine, car demain, à cette même heure, nous serons en compagnie du chanteur Vianney, qui viendra nous présenter son nouvel album. Cette précision étant faite, je salue Stéphane Boutsock.
Qui vous salue en retour, bonjour à tous.
Avant de parler des nouveautés à l'affiche Stéphane, notre traditionnel coup d'œil au box-office.
Carton annoncé, carton confirmé par les chiffres de nos amis du site cbo.fr. Le film RTL, Les Animaux Fantastiques, réalise le deuxième démarrage de l'année, avec autour d'1,5 million d'entrées pour sa première semaine sur les écrans, carton également le week-end dernier de l'autre côté de l'Atlantique. La comédie Les Têtes de l'Emploi sera à près de 250 000 spectateurs ce soir. Plus moyen, les scores du Petit Locataire de avec Karine Viard et le film Iris 2 et avec Jalil Lesper autour environ de 100 000 entrées.
Alors voyons maintenant les films qui sortent demain le 23 novembre et tout d'abord Alliés de Robert Zemeckis avec un très beau couple de cinéma, Marion Cotillard et Brad Pitt.
Entre thriller d'espionnage et romance, Alliés raconte comment deux espions, une Française, un Canadien, font équipe en jouant les maris et femmes pour tuer un dignitaire nazi à Casablanca durant la guerre. Une histoire d'amour va naître de cette mission, ainsi qu'une petite fille, mais de retour en Angleterre, les services secrets se mettent à douter de l'identité de madame et si c'était une espionne nazie infiltrée. Alors le film maintient le suspense jusqu'au bout. C'est du bel ouvrage signé par le réalisateur de Forrest Gump et de Retour vers le futur, avec deux acteurs qui jouent la carte glamour et la carte de l'action, à commencer par Brad Pitt, très tenté de rendre hommage au film de l'âge d'or d'Hollywood.
Il fallait tourner ce film dans l'esprit de ceux des années 40, avec de vrais décors. Quand vous regardez celui-ci, il est difficile de dire ce qui est réel et ce qui est recréé en studio. Il y a donc cette volonté de faire comme on le faisait avant, mais en utilisant les nouvelles technologies, et c'est assez brillant. Vous vous souvenez des films d'Hitchcock avec Cary Grant assis dans sa voiture et les projections des images de rue qui défilent sur les vitres. Nous nous sommes beaucoup amusés à utiliser ce procédé. Ensuite, le film est aussi une histoire universelle qui parle d'amour et de confiance. Confiance en la personne que vous aimez, confiance envers votre équipier et confiance en la mission que vous devez accomplir.
Quant à Marion Cotillard, eh bien, elle ajoute un nouveau genre à son incroyable carrière, celui d'une héroïne romantique et tragique. Là aussi, son rôle d'espionne séductrice l'orne vers quelques actrices mythiques.
Quand j'étais petite, j'étais fascinée par les films hollywoodiens des années 40 et des années 50. J'adorais Cukor, j'adorais Garbo, j'adorais Bergman, j'adorais Betty Davis, j'adorais Catherine Hepburn. Et quand j'ai lu ce film-là, ça correspondait tellement à ce qui me faisait rêver à l'époque. J'avais déjà envie d'être actrice à ce moment-là, mais je me disais pas un jour je voudrais être dans un film comme ça. Ça me faisait juste rêver comme une petite fille, je sais pas, va rêver sur des princesses sans forcément vouloir en devenir une et que ce soit un but dans sa vie. Puis comme vous l'avez dit, c'est aussi une nouveauté pour moi parce que j'ai pas vraiment fait de grands films romanesques comme ça. Et comme j'aime bien faire des choses que j'ai jamais explorées jusqu'à présent, c'était une espèce de rêve qui se réalisait quelque part.
Marion Cotillard et Brad Pitt, donc à l'affiche de Alliés de Robert Zemeckis. C'est pas un grand film, mais c'est un bon film. J'y ai trouvé ce que je venais chercher, à savoir du suspense et du cœur.
On va donc passer au cinéma français.
Absolument.
Et on le rappelle, la sortie de La Faillite de Brest d'Emmanuel Berco.
Dans lequel Cisse Babette Nussen incarne Irène Frachon, pneumologue. La pneumologue qui a détecté et révélé le scandale sanitaire du Mediator. Là aussi, c'est un thriller, mais social celui-ci. C'est pas le genre habituel de Berco, que je préfère moi dans sa veine plus humaniste, hein, comme Elle s'en va ou La tête haute. Reste qu'elle s'est parfaitement pliée au code de ce genre. À l'affiche aussi, Arès de Jean-Patrick Bénès, film de science-fiction et d'action qui imagine dans un futur proche que les masses seront distraites par des combats télévisés sans pitié auxquels un héros va être obligé de participer. Alors, ça a de la gueule, c'est pas totalement nouveau. Ça manque un petit peu de moyens pour vraiment convaincre.
Est-ce que vous auriez une comédie en magasin ?
Oui, Rupture pour tous d'Éric Capitaine. Le principe du scénario, vous voulez rompre avec votre fiancé et ou votre fiancé et eux, mais vous n'avez pas le courage de le faire. Eh bien, une agence qui s'appelle Love is Dead, yes, le fait pour vous avec des méthodes rudes, mais concrètes. Le patron de l'agence, c'est un jeune homme qui mène sa petite affaire jusqu'au jour où il doit s'occuper d'un dossier un peu plus sensible puisque sa maman décide de l'engager. Extrait.
Tout le temps fourré dans mes pattes.
Mm-hmm. Ça s'appelle une marque d'affection.
Ah non, non, c'est surtout qu'il s'emmerde depuis qu'il est à la retraite.
Ok, alors vous vous engueulez jamais?
Si, moi je gueule. Tout ce que je trouve à répondre, c'est calme-toi chérie, il met des chéris partout, c'est insupportable.
Ouais, alors, maman, ça c'est une chance, hein, tu sais, te plains pas. Il y a beaucoup d'hommes qui disent chérie qui pensent connasse. Hein.
Non, non, lui, il dit chérie, il le pense vraiment, ce con. Et puis, si tu veux tout savoir, il se passe plus rien. Ton père, il a un haricot dans le slip.
Hein, non, je veux pas savoir ça. Maman, dis-me, dis pas. Non,
je veux
non.
Tout, comme elle m'a expliqué, la demoiselle.
Maman, tu peux pas me demander ça.
Je savais bien que t'aurais des scrupules. Je t'ai trop bien élevée, c'est bête.
Maman, ce qu'on fait ici, c'est radical. Hein? On écrabouille le cœur des gens à coups de talent.
C'est exactement ce qu'il me faut. Hein? Oh, c'est ton métier, mon fils. Si t'étais dentiste, j'irais pas dépenser 3000 euros pour des implants.
Voilà, c'est très bien écrit, c'est joliment réalisé et c'est surtout parfaitement joué par Benjamin Laverne qu'on a vu dans l'Odyssée récemment ou encore Le goût des merveilles. Et une petite nouvelle qui s'appelle Elisa Ruske, le film Rupture pour tous. Celui qui fait du bien cette semaine, j'ajoute un film d'animation franco-canadien, Louise en hiver de Jean-François Laguillonni, qui mêle dessin traditionnel et 3D, l'histoire d'une vieille dame qui rate le dernier train, qui quitte une station balnéaire après la saison d'été, qui va devoir voir passer l'automne et l'hiver dans cette ville désertée face à la solitude et aux intempéries. L'occasion sans doute de faire le point sur sa vie. Un petit peu monotone mais très touchant et puis très beau à regarder. L'ambiance, on est entre Jacques Tati et Magritte. Donc c'est assez joli.
C'est pas mal du tout tout ça.
Très bien.
Merci beaucoup. Stéphane Boutsock, dans quelques instants, nous allons faire un tour du côté des audiences de notre soirée télévisée. On est en train d'imprimer en ce moment même les résultats sur les téléscripteurs. On est moderne.
RTL Matin 9h, 6, laissez-vous tenter.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Nous partons du côté des audiences télévisées maintenant avec vous, Isabelle Morini-Bosque, et avec Médiamétrie.
Ah bah oui, vous voyez, je suis pressée. C'est joli score pour Isabelle Nanty sur TF1, puisque 6 400 000 téléspectateurs quasiment ont suivi Munch, comme vous voudrez. Munch. 25% du public sur la une, ça augure bien de la télé de rattrapage durant les 7 jours qui vont suivre. En deuxième position, eh bien toujours Mariés au premier regard, inaltérable. 3 400 000 téléspectateurs et 14% du public, plus de 20% des femmes sur M6. Mmh. C'est 34 000 de mieux que Castle sur France 2. Et alors, la petite déception, enfin, pour les gens concernés, c'est la spéciale sur Emmanuel Macron sur France 3. 1 500 000 téléspectateurs et moins de 6% du public sur France 3. C'est à peine plus que la gifle sur Arte qui en rassemble quasiment 1 310 000. Voilà. Et côté TNT, c'est Retour vers le futur, logique, qui rassemble 1 030 000 téléspectateurs. Alors, côté programme du jour, notez ce soir sur France 2 le 53e gala de l'Union des Arts qui commence par un formidable numéro de Tigre d'Alizé, suivi d'un non moins formidable numéro de clown de Laurent Gamelon. On n'est plus dubitatif, franchement, sur PPDA, Geoffroy de Perrac, d'Angélique Martis des Anges, mais ma foi, pourquoi pas.
Oui, vous m'avez surpris là. On va donc passer à nos express, non?
Les express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Après de nombreux rebondissements, c'est fait, le fabuleux destin d'Amélie Poulain va s'installer à Broadway.
Oui, le film culte de Jean-Pierre Jeunet, sorti en 2001 avec Audrey Tautou, a été adapté en comédie musicale et sera joué à New York à partir de mars prochain. Son titre, simplement Amélie. Il faut savoir que dans un premier temps, le réalisateur était fermement opposé au projet. Oui. Sur RTL, en 2013, il avait dit « Je hais Broadway, je considère que c'est l'incarnation même de la ringardise ». Finalement, il a cédé les droits. Avec l'argent récolté, il continuera de soutenir l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Elle aide les enfants qui souffrent de malformations cardiaques.
Notre coup d'œil hebdomadaire sur le palmarès des meilleures ventes. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Ah, pas du tout, je bois vos paroles.
Des meilleures ventes de livres avec le magazine L'Express et RTL.
Eh bien, au rayon roman, le prix Goncourt, plus fort que Le Petit Sorcier, chanson douce de Leïla Slimani, prend la tête du classement devant Harry Potter et l'Enfant Maudit. Enfin, 13 à table, le recueil de nouvelles publié au profit des Restos du Cœur complète le podium. Du côté des essais et documents, un président ne devrait pas dire ça est toujours numéro un devant le guide des égarés de Jean d'Ormesson et sur les chemins noirs de Sylvie Tesson.
Voilà un palmarès complet qui est à retrouver demain dans l'Express. Jeff Koons offre lui un bouquet de tulipes à la ville de Paris.
Tout à fait, un bouquet de tulipes en souvenir des attentats du 13 novembre. L'œuvre monumentale de plus de 10 mètres de haut représentera une main tenant des tulipes. Les fleurs symbolisent la vie qui continue, a déclaré l'artiste américain. Elles seront installées courant 2017 devant le musée d'art moderne et le palais de Tokyo. A noter que Jeff Koons est à Paris en ce moment. Il visitera cet après-midi l'exposition Tchoukine à la Fondation Louis Vuitton.
Laurence Rossignol tend la main à Flavie Flamand, que l'on connaît bien entendu sur RTL.
La ministre des Droits des Femmes était l'invitée d'Elisabeth Martichoux ce matin. Elle a annoncé avoir proposé à l'animatrice de mener une mission sur les violences faites aux femmes. Mission acceptée par l'intéressée. Rappelons que dans son livre paru en octobre, Flavie Flamand a confié avoir été violée par un photographe alors qu'elle n'avait que 13 ans.
On est fait pour s'entendre, je le rappelle, hein, tous les jours à 15h sur l'antenne d'RTL. Alors après les Rolling Stones, Rihanna ou encore Katy Perry, Cuba s'apprête à accueillir un nouvel artiste de renommée internationale.
Oui, à savoir Plácido Domingo, le ténor espagnol âgé de 75 ans, donnera pour la première fois samedi un concert à La Havane. À cette occasion, il interprétera un répertoire dédié à la musique cubaine. Pour ceux qui n'auront pas la chance d'accéder à la salle du Grand Théâtre, des écrans géants seront installés aux abords de l'établissement.
Il cartonne avec les insus. Il était d'ailleurs dans ce studio la semaine dernière. Louis Bertignac est papa pour la troisième fois.
Et c'est sur Facebook que le complice de Jean-Louis Aubert et Richard Colinka a annoncé la grande nouvelle. Jack Bertignac est né le 19 novembre à 20h42, a-t-il écrit. Le guitariste et chanteur âgé de 62 ans a même posté une superbe photo avec son nouveau-né dans les bras.
Cendrillon. C'est 20 ans,
yeah.
La plus jolie
des enfants. Ça sonne bien, Jacques. Oui, c'est un joli nom. Merci beaucoup, Charlotte. C'était les Express de Laissez-vous tenter. Alors, des idées de sortie à présent, deux spectacles musicaux à l'affiche à Paris qui vont partir en tournée. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
On commence avec Le Rouge et le Noir, adapté bien sûr du roman de Stendhal.
Lieu, le Palace à Paris, mise en scène François Chouquet, Laurent Serroussi, l'histoire est bien celle du bouquin 1830 dans une petite ville du Doubs. Julien Sorel, fils d'un charpentier, devient le précepteur des enfants du maire de la commune, Monsieur de Rênal. Julien Sorel, amoureux de littérature, rêve de gloire, de bousculer l'échelle sociale. Madame de Rênal s'ennuie dans son manoir. Une passion brûlante va naître entre le jeune homme et l'aristocrate. Le spectacle est fidèle à l'œuvre, même s'il emprunte de nombreux raccourcis. 5 musiciens sont installés sur un étage dominant la scène. C'est plutôt malin. Il n'y a aucun décor, que de la vidéo. C'est épuré, moderne, mais du coup un peu froid et décharné, mais ça chante bien. Sont signés Zazie et Vincent Baguian. C'est un opéra rock, ça dépote donc à tel point qu'on n'entend plus les paroles parfois, c'est dommage. Le Rouge et le Noir est un bon divertissement, familial, efficace, sans temps mort. Le show est fluide, bien joué, les personnages ont du caractère, comme Geronimo en maître de cérémonie ou le formidable Com vu dans The Voice alias Julien Sorel.
Dans le noir, je vois rouge, dans la douleur et vive.
Le Rouge et le Noir, c'est au Palace de Paris jusqu'au 31 décembre. Les prix de 29 à 119 euros, les plus des musiciens live, l'audace de la mise en scène. Les moins, un livret un peu trop serré avec du coup quelques incongruités scénaristiques. La surprise du casting, le jeune Com qu'on entend, rock et rebelle.
Moi, tu la passion, la raison, ding dong.
Deuxième spectacle au banc d'essai Steven, un été 44.
Lieu, le Comédia à Paris, mise en scène Anthony Souchet, l'histoire, les destins croisés de 6 jeunes pendant l'été suivant le débarquement.
6 juin 1944, Caen. Il est 5 heures du matin et les explosions résonnent au loin, au nord, vers la mer. Et Wistreham.
Alors vous aurez peut-être reconnu la voix de Marissa Berenson en guise de narratrice. Elle apparaît dans des petites vidéos qui rythment le spectacle. Tout commence la nuit du 6 juin. Willy, un GI, débarque sur la plage.
J'ai touché la plage, j'ai pas vu Paris. L'eau sur mon visage,
la rouille et le bruit. Je pense à ma mère, la ferme fleurie. Je creuse la terre pour passer la nuit.
On croise Hans, l'allemand qui ne veut pas être là, Solange et Rosemary, Yvonne, l'infirmière, petit René, le jeune résistant, un été 44, n'a rien d'anxiogène, c'est tout l'inverse.
Partir sans peur et sans maître, tenir, lutter jusqu'au bout.
Un été 44 est un spectacle sur l'espoir, la renaissance, la rédemption. J'ai été totalement happée par les petites histoires qui ont fait la grande. Le voyage des trois filles vers Paris, petit René qui s'enrôle dans les FFI, Willy qui va libérer Paris. C'est émouvant, intelligent, formidablement joué et chanté. La mise en scène est affûtée, ni larmoyante, ni ampoulée. Et surtout, les chansons sont excellentes. Pourquoi ? Parce qu'on trouve les plus grands dans les crédits. Aznavour, Goldman, Chamfort, Dutheil, Lemel ou Maxime Le Forestier.
Une porte à ouvrir, juste un homme à cacher, juste rien à dire.
Un été 44, c'est au Comédia à Paris jusqu'au 26 février, les prix de 30 à 79 euros, les plus des musiciens live là aussi, on apprend plein de choses. Moi je savais pas que pour le débarquement il y avait eu 2436 pianos Steinway qui avaient été amenés par les bateaux.
C'est dingue.
Ou l'existence des Rochambelles, vous savez, ces conductrices, des femmes ambulancières qui étaient arrivées par le Maroc. Et bien sûr la qualité des chansons.
Le monde n'est jamais assez grand pour deux cœurs qui se cherchent. L'amour attrape les gens et change leur destin de ses flèches.
Alors les moins, il y a peu de danse, choix délibéré, mais dommage. La surprise du casting, à mon sens, Barbara Pravi, 23 ans, magnétique.
Alors, qui gagne le match, Steven? Je crois que j'ai à avoir compris en vous écoutant.
Un été 44, sans hésitation, un des meilleurs spectacles de la rentrée. Deux infos, Barbara Pravi, qu'on entend, sera dans le grand studio RTL ce samedi à 15h.
Bravo.
Et ces deux spectacles sont également disponibles en version studio, en CD.
On n'oublie pas.
Ça, c'est la chanson de Goldman.
Ça
s'entend.
Oui. Merci beaucoup, Steven Bellery. J'ai laissé la dernière mesure arriver jusqu'à nous dans quelques instants. Du piano toujours, Rachmaninov et Alexandre Tarot.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
Nous allons passer maintenant à la musique classique et plonger dans l'âme russe avec vous, Charlotte Latour. Bonjour.
Bonjour.
Le pianiste Alexandre Tarot consacre un album au compositeur Sergei
Rachmaninov.
Je me surprends.
Respirez profondément.
Merci.
Quel bel album conçu autour du chef-d'œuvre absolu de Rachmaninov, le concerto pour piano numéro 2. Dans l'âme russe, il faut comprendre la personnalité de ce compositeur de génie, qui était aussi chef d'orchestre et surtout pianiste hors pair, né en 1873 en Russie, formé au conservatoire de Saint-Pétersbourg, puis de Moscou par un proche de Tchaïkovski, mort en 1943 aux États-Unis, où il avait trouvé refuge après avoir quitté son pays au moment de la Révolution en 1917.
Je ne pense pas que Rachmaninov ait été heureux. Il a été amoureux, il a vécu de belles choses, il a eu du succès, mais... Je pense que c'était un homme profondément malheureux, encore une fois déraciné. Il a été un peu partout dans divers pays. Il a habité en France, à Cannes, à Paris. Un homme qui a toujours été brinque-ballé et son œuvre reflète cette transhumance.
Toujours ce concerto numéro 2, largement entendu dans des films, des publicités, repris également en variété. Une musique en tout cas reconnue dans sa version originale pour sa difficulté d'interprétation, au lyrisme déchirant, empreinte d'une bouleversante mélancolie, écrite en 1901, alors que le musicien sombrait dans une profonde dépression.
Ce que j'entends quand je joue ce concerto numéro 2, c'est avant tout un homme au bord d'un puits sans fond, sans lumière, un homme qui est encore en train de vivre la plus grave dépression de sa vie. Il n'a quasiment pas écrit de musique depuis plusieurs années. Il a donné des concerts, mais il n'est plus capable d'écrire. Et il se sort de cette dépression par l'écriture de ce concerto.
C'est vrai que Rachmaninoff a continuellement souffert de crises, de déprime et de panne d'inspiration.
Il a pourtant été acclamé absolument partout, Charlotte.
Oui, oui, il a enchaîné les tournées tout au long de sa vie, en génial virtuose qu'il était. C'est ça l'ambiguïté du personnage, à l'image de son physique d'ailleurs. Lui qui ressemblait à un bûcheron, comme dit Alexandre Tarot, il avait des mains gigantesques. Mais derrière cette force apparente, il y avait cette grande fragilité. C'est un petit peu ça, l'âme russe, finalement.
Tous mes amis russes, ils vivent dans le danger. Ils sont extrêmement romantiques, très nostalgiques. Qu'est-ce que le romantisme ? Le romantisme, c'est aller au bout des choses. Quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un qui va se tuer pour vous, par amour, ou par conviction, ou pour un idéal. Et la musique russe, c'est ça. C'est vraiment aller au bout des choses. Et même quand on est dans des sentiments très sombres, eh bien, on va y aller à fond.
La voix cristalline de la soprano Sabine Devielle, invitée par le pianiste pour cette vocalise. L'interprétation d'Alexandre Tarot semble... d'Alexandre Tarot est comme l'œuvre de Rachmaninoff. C'est à la fois délicat et solide. Lui, il semble fragile, mais son jeu est extrêmement expressif, à l'aise dans ce paradoxe. Entouré dans cet enregistrement par l'Orchestre Royal de Liverpool et le chef russe Alexander Vedernikov, ex-directeur du Bolshoï. L'ensemble est coloré, précis. On entend ce que fait chaque musicien, tant la sonorité de l'album est claire. Alexandre Tarot organise un week-end Rachmaninoff dès samedi prochain, samedi 26, à la Philharmonie de Paris. Son excellent album Rachmaninoff est paru chez Erato.
En tout cas, il a visiblement percé l'âme russe, c'était magnifique. Merci beaucoup Charlotte Latour. On va se quitter après ces extraits de musique de Rachmaninoff, très agréable à écouter. Et dans quelques instants, on va faire un grand coucou à Julien Courbet. A tout de suite.
RTL,
première radio de France.
Merci à vous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. On se retrouve demain avec grand plaisir et maintenant on accueille Julien Courbet. Vous m'avez intéressé avec votre nuit d'hôtel, vous, ce matin.
Quelle nuit d'hôtel ? Ah oui, effectivement, la petite bande-annonce.
Voilà.
Oh, mais écoutez, quand on peut avoir un rapport privilégié avec les auditrices, il ne faut pas s'en priver.
Mais non, en aucun cas.
Là, c'est Alain Juppé qui vous parle. Oui. Auriez-vous une calculette à me prêter ?
Je peux vous
dire. Car la mienne ne doit pas marcher, monsieur Copé m'a donné ses voix et quand je les additionne aux miennes, ça ne bouge pas, j'ai toujours le même chiffre. Alors, je me demande si ça ne vient pas de ma calculette.
Parce que vous savez que si on pondère les voix de Jean-François Copé, ça en fait une par bureau de vote.
Bah écoutez,
je plaisante pas. Hein. Mais oui, mais c'est vrai.